Et tout de suite, le journal est présenté par Maxime Fayol. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous. L'Union européenne ne reconnaît pas le résultat des élections en Biélorussie. C'est ce qu'affirme la chancelière allemande Angela Merkel au sortir du sommet européen extraordinaire sur le sujet. Des sanctions seront également prises contre les responsables des violences. Au Mali, nous irons à Bamako prendre le pouls de la population malienne au lendemain de la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta, chassé par des militaires putschistes. Une situation dénoncée par la communauté internationale qui condamne le coup d'État dans le pays. L'inquiétude des pédiatres en France avec l'augmentation des cas de Covid-19. Ils attirent l'attention sur la mise en place d'un nécessaire plan de prévention ainsi qu'une prise en charge des enfants contaminés. La mort d'un jeune migrant soudanais sur une plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Il s'est noyé en chavirant sur son embarcation de fortune avec un autre migrant mineur. Il s'agit du premier migrant retrouvé mort sur une plage dans cette année 2020. Le coup de semonce diplomatique est très clair ce soir. L'Union européenne ne reconnaît pas la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Bilan du Conseil européen extraordinaire qui s'est réuni cet après-midi. Des fraudes massives sont suspectées lors de cette élection remportée par le président sortant avec 80% des voix. Alexandre Loukachenko qui ordonne d'ailleurs ce soir au gouvernement d'empêcher les troubles dans le pays au 11e jour de la contestation. Les Européens ont tenu à marteler qu'ils étaient au côté de ces manifestants biélorusses. La tension monte entre les 27 et la Biélorussie, Johanna Hochstein, l'Union européenne qui promet même des sanctions envers le régime.
Priorité pour les Européens, soutenir le peuple biélorusse. La Commission européenne a donc annoncé une enveloppe de 53 millions d'euros destinée à la société civile, aux médias indépendants, aux services hospitaliers touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. Il ne s'agit pas d'argent frais, mais de fonds qui étaient destinés préalablement au gouvernement. Un gouvernement que les Européens ne reconnaissent plus, comme l'a dit très fermement le président du Conseil européen, Charles Michel.
Stop à la violence. Nous ne reconnaissons pas les résultats des élections présentés par les autorités. Nous appelons à un dialogue national inclusif.
Une transition politique, donc, voilà ce que souhaitent les Européens, sans pour autant appeler à la tenue de nouvelles élections. C'est aux Biélorusses de décider de leur avenir, a insisté Charles Michel, ni aux Européens, ni aux Russes, non aux interférences extérieures négatives, a-t-il poursuivi. S'agissant des sanctions, un nombre substantiel de dirigeants du régime d'Alexandre Loukachenko seront ciblés, a précisé le président du Conseil européen, des responsables biélorusses à l'origine de la répression et de la falsification des résultats électoraux.
Johanna Hochstein. L'Union européenne qui demande aussi la libération des prisonniers au Mali ainsi qu'un retour de l'état de droit dans le pays. Une réaction au lendemain du coup d'état qui a amené la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Réaction quasi unanime de la communauté internationale. L'Union africaine dénonce ce soir le changement inconstitutionnel au Mali, appelle à la libération immédiate du président Keïta. Les États-Unis, par la voix de Mike Pompeo, son chef de la diplomatie, condamnent la mutinerie et réclament, je cite, « la liberté et la sécurité des responsables gouvernementaux ». Même réaction en Algérie ce soir qui appelle à des élections dans le pays. C'est justement le souhait des militaires qui ont organisé ce putsch hier. Ils souhaitent un scrutin dans un délai raisonnable, mais aussi le rétablissement de la stabilité dans le pays. À Bamako, 24 heures après, le calme est revenu malgré des scènes de pillage hier soir. Les Maliens semblent en tout cas voir d'un bon œil le départ d'Ibeka. Des centaines de manifestants ont salué les mutins dans le centre-ville de Bamako. Vous trouvez Paul Lorgerie, précisément place de l'Indépendance.
De pick-up des forces armées maliennes, les FAMA contournent le rond-point de l'Indépendance sous les acclamations d'une centaine de manifestants arborant le drapeau malien. La veille, une junte militaire s'en est allée arrêter le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui prononçait quelques heures plus tard sa démission sur la télévision nationale. Un événement qui s'apparente tout bonnement à un coup d'État, mais une analyse que ne partage pas Mahmoud Diko, la cinquantaine, qui préfère parler de coup de poing.
Le coup de poing des militaires vient nous rassurer. Pas la victoire des militaires, mais la victoire du peuple. Parce que c'est le peuple qui était dans la rue. Parce que c'est le peuple qui a dit qu'il ne veut pas le président de la République. Parce que c'est le peuple qui a investi le président de la République.
À ses côtés, Ousmane Chaka, jeune médecin de 30 ans, hoche la tête en signe d'acquiescement et n'hésite pas à mettre en garde la junte.
Et ces militaires seront obligés de suivre le peuple. Parce que c'est une aspiration légitime du peuple malien.
Si la soirée d'hier a quelque peu été mouvementée, un calme fragile semble gagner la capitale malienne. Entourée par les motocyclistes vacants à leurs activités, la manifestation s'est déroulée sans encombre, comme si rien ne s'était passé à Bamako.
Le reportage à Bamako de Paul Lorgerie. Au Nigeria, des centaines de civils sont toujours pris en otage ce soir dans le nord-est du pays. Ce sont des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest qui sont responsables de cette prise d'otage. Le groupe qui a fait scission de Boko Haram en 2016 mène depuis de nombreuses attaques, notamment contre l'armée nigériane, responsable de plusieurs dizaines de morts. Plus au nord, au Niger, un suspect a été arrêté après le meurtre de 8 personnes, dont 6 humanitaires françaises. Cela s'est passé il y a 10 jours dans la région de Kouré, à quelques kilomètres de la capitale Niamey. Le ministre nigérien de l'Intérieur annonce ce soir que les enquêteurs disposent de pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de cette tuerie. Une enquête qui progresse donc alors que l'on célèbre ce 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'an passé, 125 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde, au moins autant kidnappés. Des chiffres en hausse, Nadine Epstein, par rapport aux années précédentes et qui pose la question de la sécurité de ces travailleurs, notamment dans certaines zones à risque.
7 pays concentrent la plupart des agressions contre les humanitaires. La Syrie, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Yémen et le Mali. Ces attaques ont touché à 90% des nationaux, près d'un millier de travailleurs humanitaires. Aux chiffres donnés par l'ONU s'ajoutent ceux de l'Organisation mondiale de la santé qui a relevé plus de 1000 attaques contre des établissements de santé et leur personnel. En un an, le nombre de victimes a augmenté de 18%. Les médecins syriens et les humanitaires engagés dans la lutte contre l'épidémie Ebola en RDC ont été particulièrement touchés. Et cette année 2020 s'annonce aussi mauvaise après des attaques meurtrières au Niger et au Cameroun. L'ONU rappelle que le financement assure l'importance du travail et la sécurité des humanitaires. En 2019, les donateurs ont fourni un montant record de 16 milliards de dollars. Les demandes d'aide ne cessent d'augmenter. En 2020, près de 168 millions de personnes, soit une personne sur 45 dans le monde, ont besoin d'une assistance humanitaire.
Nadine Epstein. Il n'y aura pas de normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Le ministre saoudien des Affaires étrangères exclut aujourd'hui de suivre la route tracée par les Émirats arabes unis il y a quelques jours. Riyad affirme qu'il faudrait une paix durable entre Israël et les Palestiniens avec la création d'un État palestinien pour que ces relations soient normalisées. De son côté, l'Iran franchit le seuil des 20 000 morts du Covid-19. La République islamique est le pays le plus touché au Proche et Moyen-Orient. Plus de 350 000 Iraniens auraient contracté le virus, même si les chiffres officiels pourraient être largement sous-estimés. La Covid, dont le nombre de cas augmente également en France. Le port du masque s'étend encore un peu plus. C'est notamment le cas à Toulouse. Le préfet de Haute-Garonne introduit l'obligation de porter le masque dans toute la ville de 7h jusqu'à 3h du matin. À Nice, le maire Christian Estrosi veut étendre cette obligation à toute la ville. Il faut rappeler que Nice accueillera le départ du Tour de France du 27 au 31 août. Le port du masque qui n'est pas sans susciter des réticences, voire un rejet d'une partie de la population. Un habitant de Montpellier vient d'ailleurs d'attaquer en justice l'arrêté préfectoral qui impose le port du masque dans le centre-ville. Il s'agit d'un père de famille aux revenus modestes qui explique que cette obligation du port du masque lui revient trop cher dans son budget. Une procédure en référé, en urgence, est déclenchée pour suspendre cet arrêté. David Guyon est avocat au barreau de Montpellier. Il souhaite assouplir les conditions de cette obligation.
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on ramène un petit peu de proportionnalité. C'est-à-dire que actuellement, c'est l'ensemble du centre-ville de Montpellier qui est soumis à l'obligation du port du masque dans l'extérieur, quel que soit le jour de la semaine et quelle que soit l'heure de la semaine. Dernièrement, un dimanche soir à 1h du matin, il n'y a pas de nécessité de porter le masque. Et pourtant, si jamais on se trouve à ce moment-là contrôlé sans masque, on est susceptible donc d'avoir une contravention pour cette obligation-là de 135 euros. Donc l'idée, c'est de ramener un peu de proportionnalité, définir des cadres stricts, des limites strictes en temps et en heure, dans les jours de la semaine, qui pourraient effectivement limiter la consommation excessive de masques et surtout, bien entendu, mettre en place des approvisionnements pour l'ensemble de la population montpelliéraine et pas simplement pour les personnes qui seraient économiquement fragiles, puisque ça va quand même représenter un budget important, même pour les classes moyennes.
Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. L'affaire sera jugée le 10 septembre. Le port du masque qui doit permettre de limiter la propagation du virus, c'est la crainte en ce moment des autorités sanitaires. Une crainte également formulée par les pédiatres à quelques semaines de la rentrée scolaire. 7 sociétés savantes de la discipline publient une lettre ouverte aujourd'hui pour demander un véritable plan de prévention ainsi qu'une vraie prise en charge des enfants contaminés. Fabienne Cochère est présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Elle dénonce l'absence de mesures claires dans les établissements scolaires.
On est un peu inquiet à l'idée que les enfants puissent peut-être trop se mélanger. Il y a une remontée du nombre de contaminations avec les gens qui sont partis en vacances, des mesures de distanciation, port du masque, gestes barrières qui n'ont pas toujours été respectés. Et on peut avoir des enfants contaminés. Hein. Notre inquiétude, c'est surtout qu'il n'y a pas d'anticipation. Là, jusqu'à présent, il n'y a pas de directive très claire. Si un enfant malade dans une école, nous, ce que l'on veut, c'est qu'on puisse remonter la chaîne de contamination, isoler l'enfant, voir un peu qui a été en contact avec lui et ne pas fermer l'école parce que les enfants ont vraiment besoin de tous retourner à l'école. Les enfants ont suffisamment souffert du confinement. Il faut à tout prix que cette rentrée à l'école puisse se faire et qu'on puisse agir correctement, intelligemment en cas de contamination d'un enfant. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de brassage de population parce que imaginez s'il faut tester plus de 500 à 1000 élèves, c'est difficile.
Fabienne Cochère, la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire avec Margot Siffert. Le domicile d'Olivier Dussopt perquisitionné hier. Le ministre délégué en charge des comptes publics est en cause dans une enquête du parquet national financier. Deux lithographies lui ont été offertes en 2017 par les dirigeants d'une société de traitement des eaux, la SOR. Olivier Dussopt était alors député-maire d'Annonay dans l'Ardèche. Il venait juste de signer un partenariat industriel avec cette même société. Le ministre explique avoir rendu les œuvres d'art afin de clore la polémique. Dans le Pas-de-Calais, c'est un migrant, un Soudanais, qui a été retrouvé mort ce matin sur la plage de Sangatte. Il s'est noyé après que son embarcation a chaviré. Il tentait de traverser la Manche avec l'un de ses compatriotes sur un petit bateau d'à peine un mètre de long. L'un des deux, âgé de 16 ans, a été retrouvé en état d'hypothermie. Le second a donc été découvert mort au matin sur la plage. C'est le premier migrant qui décède sur les côtes nordistes cette année. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Ce drame illustre une situation connue depuis des années dans le Pas-de-Calais, celle du sort des migrants qui tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Une situation qui se tend à nouveau en ce moment.
Effectivement, cet été, on a vu une multiplication impressionnante des tentatives de traverser de la Manche grâce à la bonne météo, que ce soit en montant à l'arrière des camions, comme ici, par la mer, sur des embarcations de fortune, avec l'aide ou non de passeurs. Pourtant, les autorités des deux pays travaillent de concert sur une surveillance serrée de tout le littoral sur ce détroit du Pas-de-Calais, considéré comme une autoroute de la mer. Par exemple, la Royal Air Force vient en soutien des gardes-côtes français. Une cellule franco-britannique de renseignement a été mise en place pour lutter contre les passeurs et un plan de lutte est également en cours de finalisation pour renforcer les moyens de contrôle. Ce qui n'empêche pas des tensions entre les deux pays. Au début du mois, les autorités britanniques ont accusé la France de ne pas aller assez loin dans la lutte contre les traversées illégales. De l'autre côté de la Manche, la mer de Calais, Natacha Bouchard, a rétorqué que c'était au Royaume-Uni d'agir, de changer leurs règles d'accueil, responsables, selon elle, de l'appel d'air. En attendant, rien ne semble tarir ce flux de prétendants à la traversée, ce qui amène à une situation difficilement gérable dans la zone, qui rappelle même l'avant-jungle de Calais, avec 1000 à 1200 personnes, selon les associations d'aide aux migrants, qui vivent dans des conditions inhumaines dans les rues de Calais, sous des tentes, sous des ponts, nourris tant bien que mal grâce aux distributions de nourriture. La défenseurs des droits et l'ONU ont même été saisis par des ONG il y a quelques jours.
Merci de vos précisions, Adrien Toffolet. J'ajoute que France Culture sera chaque jour à Calais la semaine prochaine dans le journal de 8h. Tara Schlegel brossera le portrait de migrants qu'elle a pu rencontrer. C'est une série à suivre donc à partir de lundi sur France Culture. Le temps de ce mercredi soir avec de la pluie qui tombe sur le nord du pays, mais aussi sur la Bretagne, les Ardennes et la région parisienne. Sur le centre du pays, le soleil reste voilé. Il est en revanche franc et massif sur le sud du pays. Demain, jeudi, les conditions vont s'améliorer, notamment sur le nord du pays, même si l'on gardera de la pluie en matinée sur le nord, mais aussi la Normandie et la Mayenne. Le soleil va briller sur le reste du pays, même si quelques nuages vont l'empêcher de percer sur la côte ouest du pays. Les températures seront douces au lever du jour. Il fait 18 degrés à Brest, 19 à Caen, 21 à Lille, 22 à Strasbourg, 24 à Saint-Étienne, jusqu'à 25 degrés à Marseille. Ce journal a été réalisé et préparé par Brice Garcia.